Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Aujourd'hui, nous allons parler avec Sylvain Gendreau. Sylvain Gendreau qui est directeur général du musée de Charlevoix et qui est l'idéateur de l'exposition Les années hippies qui a lieu à partir de maintenant jusqu'au 16 juillet. Donc vous avez encore un peu de temps pour aller voir cette exposition. Et puis en deuxième partie d'émission, notre psychomique Sergi Van Bourg, il va nous parler de son spectacle Conte urbain d'un psychomique de région. Donc on l'a en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, nous partons en musique avec Lydia Kepinski qui nous chante Vacances, travail.
L'auréole sur ma tête, j'aurais voulu être parfaite. Comme ces montagnes le sont, le fleuve à l'horizon est. Sur la route, sur la vague, dans l'angle aigu du zigzag. Stop la vanne, il faut qu'on s'arrête. J'ai envie de me baigner ici. Café, essence, pause, pipi. Prends le volant comme c'est pas permis. En avance, DJ Astrolab. La plupart du temps sur le Google Maps. Les philosophes pour la discussion. Les backbenchers pour le roupillon. On ira jusqu'au fjord. J'aurai plus aucun remords. Et je sais que là nous attend un glacier de 3000 ans. Balai, bébé, beluga. Imagine-nous déjà là. Le soleil sur ma peau. L'horizon, rien n'est nouveau. Ma peau sous le soleil, et pourtant plus rien n'est pareil. Si j'ai brisé ton cœur, emporte-le ailleurs. Loin d'où je suis, la fin commence ainsi. J'ai brisé ton cœur, emporte-le ailleurs. Loin d'où je suis, la fin. Ces panneaux, je les reconnais, mais je découvre comme il faut. Comme un enfant, tout semble nouveau. Traverse la terre comme des pénitents. Le convoi est ouvert, monte dedans. Et vite se croiser, boucler vos ceintures. Frappe la haut jack, je l'ai écrit sur le mur. Que la joie se loge dans chaque fissure. Chanter mes églogues dans le bonheur le plus pur. De notre aventure. Le soleil sur ma peau, l'horizon, rien n'est nouveau. Ma peau sous le soleil, et pourtant plus rien n'est pareil. Si j'ai brisé ton cœur, emporte-le ailleurs. Loin d'où je suis, la fin commence ainsi. J'ai brisé ton cœur, emporte-le ailleurs. Loin d'où je suis, la fin. Cette journée était parfaite.
Et voilà, donc nous retrouvons Sylvain Gendreau. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans l'émission. Alors là, mon bonheur, on va parler d'une expo qui raconte les années hippies.
Oui, c'est ça. Ben, bonjour tout le monde. Et puis, oui, c'est les années hippies dans Charlevoix, parce que le musée de Charlevoix est à la Malbaie, c'est l'histoire, en fin de compte, des gens qui sont arrivés dans les années 70 pour le retour à la Terre, faut le préciser, et puis qui ont pas mal transformé la région avec les gens qui étaient là en place. Là. Donc, oui, c'est les années hippies, mais dans Charlevoix.
Une petite question sur ceux qui étaient sur place à cette époque-là. et qui les ont reçus. On a vu moult films, en tout cas français, puis il y a dû en avoir au Québec aussi, où il y avait cette espèce de regard de méfiance de l'habitant du coin sur les hippies qui arrivaient.
Oui, il y a eu un peu de ça, évidemment. Mais qu'est-ce qui était drôle, ils prenaient, de toute façon, c'est les gens qui sont arrivés. C'était un peu à l'époque des années hippies, mais pas nécessairement dans les années 60, c'est plus les années 70. Et puis, je pense que c'était le bienvenu dans les régions qui étaient un peu désertées là, par les jeunes l'époque, du coin. Donc, ça faisait
du bien
des gens nouveaux qui arrivaient. Donc, ça changeait peut-être un peu la donne pour nous. Par contre, les gens achetaient des terres. En fin de compte, ils sont venus faire un tour. Ils ont dit, on s'achète une terre. Donc, ça a permis que des terres qui étaient en friche sont devenues des lieux intéressants. Par contre, les gens disaient, pauvres, eux, ils s'en viennent ici dans la misère. Ils prennent des terres très loin, ils retournent dans le bois. Donc, ils trouvaient que c'était drôle, ils les trouvaient courageux aussi. Et ils ne comprenaient pas que des gens viennent ici. Fait que ces gens-là revenaient à des valeurs différentes. Mais les gens du coin les voyaient un peu comme pas nécessairement des extraterrestres, mais disaient pourquoi qu'ils viennent ici. Et après ça, c'était l'habitation, la cohabitation ensemble. Puis je pense qu'il y a eu des éléments avec les gens de la région qui ont été fort extraordinaires aussi.
Ben oui, parce que en même temps, alors moi je juge par rapport à des villages de France hein, que on a fait des films dessus, mais c'était ça aussi. Il y avait quand même, ils arrivaient avec plein de nouvelles idées aussi. Donc c'était ce qu'ils faisaient, mais ça a fait du bien parce que finalement il y en a qui sont restés dans ce que je disais dans l'historique, c'est que il y en a qui sont venus et repartis comme partout ailleurs.
Ouais.
Et puis il y en a qui sont restés et puis qui ont fait tout ce qui existe ici, voilà.
Mais c'est un peu, moi, je suis arrivé directeur du musée, ça fait à peu près 3 ans, là. C'est sûr que quand je suis arrivé, j'avais un livre sur mon bureau, parce que les gens font du ménage avant que tu arrives. Et c'est un livre sur la contre-culture qui avait été écrit par des gens d'ici et qui parlait de la contre-culture et de l'impact au Québec et un peu partout. Donc, ça m'avait donné l'idée avec les gens qui avaient édité le livre, qui était la Société d'histoire de Charlevoix, de dire, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On le savait qu'il y avait des legs importants, entre autres, les gens qui avaient fondé le Cirque du Soleil, ben, étaient de la partie ici, dans les auberges et tout. Et on sait que le cirque est quelque chose d'important, le volet bio. On s'est dit, ben, on va.
Ça l'est devenu, en tout cas?
Oui, c'est ça. Puis on a fait une recherche, puis on a été chercher des témoignages des gens qui étaient là. Puis on pense, il y en a un peu, on n'a pas interviewé tout le monde, bien évidemment, là, mais dans les 25 ou 30 qu'on a interviewés, c'était des gens qui avaient de la création et tout, mais qui sont venus et qui sont restés, je vous dirais, qui est intéressant. Donc, ils ont changé les mœurs de la région avec les personnes ici dans différents domaines.
Oui,
puis là, on a dit, bon, ça vaut la peine de faire une exposition là-dessus parce que avoir une idée, c'est bien, mais là, on avait comme une certitude, disons, que ces éléments-là avaient un impact important.
Ils ont entraîné la jeunesse de Charlevoix, de la région de Charlevoix, là-dedans aussi. Peut-être
oui,
en arrivant, ils auront apporté d'autres choses parce que c'était une autre culture aussi.
Effectivement, c'était le cas, mais c'était comme des valeurs un peu qui étaient liées au volet hippie, que le retour à la terre, le retour à des valeurs qui étaient faire les trucs comme on faisait dans le temps, etc., qui ressemblent, quand on regarde au niveau de l'agriculture, on va parler d'autres domaines, mais celui-là, il prenait des terres et il prenait des façons de faire très, très saines ou très biologiques, mais ça s'appelait pas comme ça à l'époque, là. Donc,
oui.
Et ces familles-là sont arrivées. Les enfants sont encore ici et ils continuent à cultiver la terre, mais ils ont des certifications bio. Donc, on voit qu'il y a un leg de ce côté-là, mais il y a plein d'artistes qui sont venus aussi. Il y a eu la vraie fanfare Fokker qui était venue, qui faisait de l'improvisation, qui poursuivait un peu partout. Il y avait une commune qui était là-dessus, donc qui était créée pour le théâtre. Et ils ont resté quand même 2-3 ans dans la région. Vous voyez un peu l'idée, le volet théâtral était là. On vous a parlé du Cirque du Soleil. Ben, c'est un leg qui est important pour nous, etc., etc.
Mais en même temps, quand vous parlez de tout ça et des hippies lorsqu'ils sont arrivés, là, j'aurais qu'une prière aujourd'hui même, là.
Ouais.
C'est que ça revienne.
Mais je vous dirais que...
C'est que ça revienne.
Mais
sincèrement,
c'est
partout.
Je vous dirais que les valeurs que ces gens-là véhiculaient à l'époque sont véhiculées maintenant par les jeunes. C'est les mêmes au niveau de l'écologie,
tant mieux,
etc.
Oui.
Donc, on est on voit un peu que, on dit que les hippies ne sont plus là, mais ils sont toujours là en valeur. Donc, il y a un leg important au niveau de la façon de faire, puis on le sent dans la région, qu'ils ont laissé des trucs fort intéressants, comme par exemple, on parle des gens du festif. Bien, il y a eu, les gens ont été beaucoup inspirés des fêtes foraines qui ont été faites par, par Monsieur Laliberté à la fin des années 70, qui venait d'un autre, un festival folklorique. Donc, on voit que le côté des festivals qui étaient moins dispersés comme aujourd'hui, il y en a partout des festivals ou des festivals, oui. Là, mais c'est parti un peu d'une idée. Et maintenant, bon, on sait que le festif est un truc qui est très animé et qui, les gens qui ont ça, c'est des fils de d'autres personnes. Et ils disent, oui, on est inspiré de ce qui avait été fait à l'époque. Donc, c'est un peu pour ça qu'on parle. Oui, il y a eu une époque épique qu'on essaie dans l'exposition avec des photos. On a fait un truc plus technique avec des photos qui tournent, comment ils ont fait les maisons. Il y avait le principe de la maison ronde qu'ils avaient retrouvé dans les livres.
Oui, c'est vrai.
Qui est fort intéressant. Il y en a une même qui est un peu très spatiale, là, qui est moins champêtre, comme on dirait, mais elle est toujours là. Le monsieur est toujours dans sa maison qui a créé avec une idée de l'époque, qui a même fait de l'architecture un peu ailleurs. Donc, vous voyez un peu l'idée, c'était de prendre les témoignages de 20 ou 25 personnes et de le mettre avec des douches sonores. Donc, on entend les gens, on voit les photos, leur réalisation. On fait les différents thèmes qu'on vous parle. Puis, au niveau de la culture, il y a le volet du tissage qui a été revisité par les gens là, qui avaient laissé tomber certains concepts.
J'ai vu aussi que, j'ai vu aussi qu'au moment de l'exposition, donc maintenant, il y a aussi un numéro spécial de la Société d'histoire de Charlevoix qui est lancé en même temps que l'exposition. Donc, avec tout ce dont vous nous parlez.
Oui, qui relate également la recherche.
Oui.
Donc, c'est comme un complément à l'exposition, je vous dirais.
Ça va être beau, heureusement qu'il y a jusqu'au mois de juillet pour aller voir.
Oui, c'est ça. Puis on peut... et les gens, on a eu notre lancement hier, donc nous, on n'est pas objectif du tout, on l'aime beaucoup notre exposition, fait qu'on n'est pas...
J'en doute absolument pas.
Eux ont trouvé des choses, qui ont appris des choses, ils ont été plus loin, donc les gens étaient heureux de voir un peu ce qu'on avait fait.
Ceux qui les ont vécus en ont la nostalgie, et ceux qui les ont pas vécus, ben, apprennent de ça. Sylvain, on va faire une pause musicale, et puis on revient tout de suite après pour continuer à en parler.
OK.
Alors, on part avec Roselle qui nous...
Yeah.
Alors, on vient de parler des années hippies. Donc, notre technicien qui s'occupe de la musique, Maurice Bolduc, nous a trouvé The Fifth Dimension qui nous chantait Let the Sunshine, bien sûr. Voilà. Ça, c'était pour accompagner votre texte, Sylvain.
Oui, merci. Puis je dirais que c'est, quand on regarde le côté musical, je vous ai mentionné au début que c'était l'histoire de qu'est-ce qui s'était passé dans Charlevoix au niveau de ces années hippies-là et le legs. Mais pour les gens, on sait que les années hippies, c'est plus large que ça. Donc, on a fait c'est une exposition qui a beaucoup le volet humain, mais c'est un truc d'ambiance. Donc,
un salon psychologique. Psychédélique.
Psychédélique, ouais. Il était pas tellement psychologique.
De psychédélique.
Il était plus psychédélique. Ouais. Et donc, on le fait plus avec... on a un salon indien aussi, avec...
Mais parlez-moi d'abord du salon psychédélique.
Oui. Donc, c'en est un qui est un peu plus vintage, mais avec la musique d'époque. Donc, c'est une ambiance qui est comme un salon, mais qu'on a mis pas nécessairement tous des artefacts du musée, mais les années 60 et 70 se retrouvent dans le salon avec des
Charlebois
d'époque et tout, mais qui est vraiment général. On a mis la musique qui était écoutée dans le temps et tout. Donc, celui-là est pour donner les années psychédéliques de façon générale. C'est un salon. Et dans l'exposition, on sait que l'influence indienne est importante aussi dans Charlevoix. Donc, on a fait un salon indien. Donc, au-delà du côté humain, qu'on entend, on voit les photos, on voit des artefacts du coin, des artistes, etc., on a des expériences, en fin de compte, de l'époque.
On se détend comme à l'époque?
Oui, on a des gens qui ne sortent plus du salon, mais on est très heureux. Donc, on pense que les éléments ont été là. Puis on a même un espace sensoriel de sentir les encens de l'époque. Le célèbre patchouli.
Ah ben
donc,
oui!
On l'a... C'est des trucs d'arôme, là, tu sais, pour se mettre un peu dans l'époque, là. Les gens ont bien aimé ce volet-là parce qu'on s'en souvient. Puis monsieur qui était venu, on riait beaucoup parce que le truc de patchouli était peut-être un petit peu trop, il a aspergé pas mal. Puis il était heureux, mais il dit là, je pense que je vais aller me laver un peu parce que je sens un petit peu trop le parfum. Fait qu'on avait du plaisir avec le monsieur, là. Mais juste pour vous dire que c'est une expérience, cette exposition-là, au-delà de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la région, comment les gens l'ont vécu et les legs qu'on a eus. Je pense que les éléments d'expérience sont importants pour les gens.
Donc, vous avez aussi enregistré des témoignages des personnes qui ont vécu cette époque-là à Charlevoix?
Oui, on a des douches sonores pour chacune des étapes qu'on a qu'on essaie d'illustrer. Quand je vous disais le retour à la campagne, comment faire sa maison, on a le côté éclaté des couleurs, le volet culture, et c'est des artistes qui font les témoignages. Donc, à chaque étape, on a quatre stations sonores avec les interviews, les parties des interviews les plus importantes pour donner un sens un peu de ce qui s'est passé ici, mais avec les témoignages directs. Et on a quatre ou cinq films, notamment, il y avait une auberge qui s'appelait le balcon vert, donc les gens du cirque avaient parti comme administrateur, mais maintenant à Maison-Mère, à Baie-Saint-Paul, il y a le balcon, l'auberge des balcons, qui est un peu toujours la même organisation, mais qui est rendue dans un autre lieu et qui accueille encore des jeunes un peu de la même façon, et c'est excessivement populaire. Donc on voit que les valeurs sont toujours là.
Ça, c'est formidable.
Oui. Et puis peut-être que vous parliez un peu de... j'entendais la musique qui était très très à propos tantôt. Mais nous, on fait aussi... On a cinq films qu'on va présenter. Il y a un superbe parc que la ville de la Malbaie a créé tout à côté du musée. Et on a un agora qu'on va faire des activités à tous les mercredis. Et le jeudi, en cas de pluie, là, c'est des films gratuits qu'on appelle « Ciné dans le parc ». Donc, on a des films d'époque qui relatent des éléments hippies. Donc, ça va être intéressant. Ça va faire un peu
c'est bien.
Avec animation. Et puis, comme par exemple, à notre lancement, on avait un joueur de sitar de Québec qui était venu avec sa place. Donc, les gens étaient comme dans une ambiance. Puis on va essayer toujours de recréer dans nos activités extérieures de l'été, en juin et juillet, de donner le sens un peu de cette époque-là au niveau charlevoisien puis au niveau général par rapport au film.
Mais oui, qui a fait des fêtes. Alors là, il va manquer pour certains les cheveux longs, donc perruque oblige.
Oui, mais il y en a encore. Je pense que que c'est revenu aussi. Fait que ça, c'est un peu intéressant de voir les éléments. Puis même nous, on avait des éléments de scénarisation qu'on cherchait, mais on n'a pas eu de difficulté à trouver le macramé, de trouver des trucs comme ça. C'est revenu. Donc, c'est des choses que les jeunes apprécient. Donc, comme vous disiez, les gens, ils peuvent être nostalgiques de l'époque, mais les jeunes qui étaient très présents hier étaient...
emballés?
Ils se sentaient comme chez eux. C'était drôle, c'est ce que je veux dire. Ils ne se sentaient pas déboussolés, là, puis c'était pas quelque chose qui était déboussolant. C'était plus une belle continuité pour eux.
Ben, c'est bien. Et puis, vous avez eu aussi des anglophones qui sont venus à l'époque.
Oui, il y en a eu plusieurs. Et puis, on a eu le côté boîte à chansons qui a été assez populaire dans le coin. Donc, et eux, c'était, il y avait une sage-femme qui était dans la région. Donc, c'est assez... et maintenant, les sages-femmes, c'est comme, entre guillemets, un grand niveau d'acceptabilité dans la société, mais à l'époque, moins. Mais dans une région comme ici, ben, tous les gens utilisaient ces services. Donc, vous voyez un peu l'idée. Puis elle était d'origine anglophone aussi dans son environnement. Donc, et là, il n'y avait pas de frontières linguistiques à cet égard-là.
Je comprends ça. Alors, on arrive juste à la fin d'entrevue. Donc, vous avez pris ce poste-là. Juste avant la pandémie, vous avez eu le temps de...
Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'était une gestion qui aurait pu être d'un an, un an et demi, mais là, ça a pris 3 ans. On est tous aussi heureux de retrouver les gens. Et comme hier, c'est un vernissage qui était irrégulier avec les vraies personnes, bien qu'on avait les masques et tout. C'est des choses qu'on ne faisait plus dans les 2 dernières années. On faisait attention, évidemment. Mais les gens font attention aujourd'hui, mais on a une ouverture. On est très heureux.
Oui, puis avec cette exposition, cette expo-là, bah, ça va donner ça va redonner le sourire, ça va nous redonner la joie qu'il y avait. L'amour
ça.
et le lien, on va enfin retrouver du lien.
Oui. Puis les gens étaient heureux, puis c'était drôle, on avait un petit goûter avec une anecdote, on a demandé au restaurant qui était le plus célèbre à l'époque, qui était géré par des hippies, donc quelqu'un qui a fait époque, et lui il a fait son marque de commerce avec le gâteau aux carottes. Donc aujourd'hui ça a l'air très courant, mais à l'époque c'était une création quasiment totale. Donc,
d'accord.
On a demandé au chef qui était là de refaire le gâteau aux carottes, et puis les gens avaient une nostalgie de l'époque. Fait que je veux vous dire que quelque chose qui était nouveau à l'époque, bon, aujourd'hui est rendu dans du quotidien.
D'accord. Bon, alors un bon vrai gâteau aux carottes sans substitut dedans.
C'est ça. Et puis ça fait quasiment végétarien, on peut en rire un peu.
Oui, ça le fait aussi. Ben, écoutez, c'est formidable. Donc c'est jusqu'au 16 juillet.
Oui.
L'entrée est gratuite?
Non, ben, il y a un frais, là, mais c'est 10 $, là, c'est minimum.
Okay.
Et puis, mais par contre, il y a des gratuités les dimanches, là, avec le ministère de la Culture, etc. Pour regarder sur notre site web, mais.
Et puis, il y a un nombre de personnes qui peuvent rentrer?
Oui, ben, on n'a pas de contingence de personnes dans la salle. Il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Alors, le musée de Charlevoix, vous avez jusqu'au 16 juillet, mais allez vous amuser. Alors, pour ceux qui ont connu les années hippies, ça va être un pur bonheur. Et pour ceux qui ne les ont pas connus, bah, apprenez à les connaître. Vous allez beaucoup, beaucoup vous amuser avec tout ça.
Alors, merci, on va être heureux de vous accueillir.
On vous remercie, Sylvain Gendreau. Et puis, bonne continuation pour tout le reste. Et puis, après le 16 juillet, après d'autres belles expositions. Et puis, voilà. Mais en tout cas, on s'amuse.
On en parlera à ce moment-là.
Voilà.
Des choses complètement différentes.
On s'amuse jusqu'à l'été avec vous et les hippies. Il faudrait que je retrouve un bandeau, tiens, de tour de tête. Merci à vous.
Plaisir, hein.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, on se quitte avec Berry Wham et Big Flo et Oli, qui nous chante plus vite.
Et les Berry Wham, vous avez un truc pour nous ? Faux contact dans mes écouteurs. Je devais les plier tous les quarts d'heure. Si par malheur, je les avais oubliés, j'écoutais ma musique en haut-parleur. Jamais sans elle, sur une île déserte ou sous écrou, loin de ceux qui disent j'écoute de tout. Une armure, un repère, un antidote, pas d'enceinte, ça rappait sur du beatbox. Obligé de demander de la baisser au resto, sinon j'écoute plus ce qu'on me dit en face. Pas de musique quand je fais l'amour, sinon mon esprit de fou se concentre sur la ligne de basse. Faut me voir avec mon casque seul dans la nuit, quand mes bras imitent le rythme de la batterie. Quand les voix m'enlacent et guident ma thérapie, mon âme met les voiles et m'échappe, non ça n'a pas de prix. Et mon cœur fait p*** quand j'entends les p***. J'étouffe mes peurs dans des chouilles. La la la. Mélomane, les mélodies se mélangent et m'aident. Même si la maladie veut me l'enlever, c'est mon remède. Mémorise mes mots qui s'entremêlent et me motivent. Moi, les motifs depuis mon à chaque moment de ma semaine. Demande au Berry Wham, c'est trop tard quand elle te pique. Personne n'ira plus vite que la musique. Plus vite que la musique. Mes pas calqués sur le tempo quand je marche dans la rue. Quand tu l'entends, c'est qu'elle a déjà disparu. Je suis avec elle quand je vais m'isoler. Je me réveille en double croche, je m'endors en triolet. Au-dessus de toute, hors catégorie, on me pose une question, je réponds une mélodie. Je réponds une mélodie. Ok. Des fois je me répète comme un perroquet. Elle s'incruste dans des moments inappropriés. Et je chante dans ma tête quand j'ai trop crié. Elle a une croix sur chaque jour du calendrier. Et j'en verse quelques notes dans mon encrier. Moi le mélomane, moussica tes hameaux. Les chemins sont pavés comme le clavier d'un piano. Qu'aurais-je fait sans elle? Qui peut savoir? La réponse se trouve sûrement sous les touches noires. Et je suis son prisonnier, elle me prend en otage. Quand je prends la grosse tête, elle me descend d'une octave. Et même si t'accélères, tu dois suivre le rythme à chaque prise de voix. Nouvelle prise de risque, c'est la course sur le multipiste. L'émotion qu'elle suscite, elle me dévoile, moi qui suis si pudique. Et dans sa symphonie, pas de sens unique. Personne n'ira plus vite que la musique. Plus vite que la musique.
Alors j'espère que vous êtes comme moi, mais en tout cas de parler des années hippies, ça m'a donné le sourire et même une franche envie de rire et d'aller au musée de Charlevoix très bientôt, en tout cas avant le 16 juillet. Voilà, pour l'instant restez avec nous, le psychomique, on continue dans le rire, le psychomique Sergi Vanbourg qui est avec nous, il va nous parler de son spectacle « Conte urbain d'un psychomique de région ». Donc on se retrouve tout de suite après ça.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Connecté pour
Alors, on vient d'entendre Erika qui nous chantait Boulevard d'Alexandre. Et là, maintenant, comme promis, on rejoint Serge Yvan Bourque. Bonjour, Serge Yvan.
Salut, Arlette, ça va?
Tu vas bien? Tu dois être super débordé, bien. Super excité aussi.
Débordé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un jour de déménagement aujourd'hui, entre 1000 affaires. Alors,
c'est vrai, mesdames, messieurs, que Serge Yvan Bourque a trouvé la maison de ses rêves.
Ben oui, t'as vu ça sur mes réseaux sociaux?
Oui, bien sûr.
Ah, oui. Belle petite maison, puis en effet, là, c'est une maison, de rêve. Ouais, je pense que c'est la maison de rêve pour moi. Il y en a qui, c'est drôle parce que j'ai parlé avec l'ancien proprio, puis lui, il disait que c'était la maison du bonheur pour lui. Alors, je peux pas le copier. Alors, moi, ça va être la maison de rêve, et lui, c'était la maison du bonheur.
en tout cas, c'est le bonheur d'aller y habiter. C'est déjà ça.
Oui, c'est ça.
On va dire ça comme ça. Alors, on va parler de ton spectacle, le psychomique, conte urbain d'un psychomique de région.
Tout à fait, que je fais bientôt, prochainement, le dimanche 15 mai, au Théâtre de la Ville à Longueuil.
Oui, on va.
Pour les gens de la Rive-Sud ou les gens qui n'ont pas peur de traverser le pont.
Ben c'est plus facile de traverser le pont puis d'avoir une place pour se garer que de chercher une place au centre-ville de Montréal, des fois.
Tout à fait. C'est un point positif pour venir me voir à Longueuil.
Voilà. Alors, raconte un peu, qu'est-ce que c'est ce spectacle?
Ce spectacle-là, c'est mon dernier en liste d'une panoplie de spectacles solo que j'ai pu faire depuis le début de ma carrière, de ma jeune carrière. Mais c'est surtout le plus intimiste, je te dirais. Toute l'histoire, en fait, c'est ma fille qui me demande une histoire pour s'endormir. Et je lui demande « Quelle histoire tu veux que je te raconte? » Parce que j'ai l'impression que t'en avoir compté 17, mais tu dors pas encore. Alors, elle me dit « Celle de notre famille. » Oh là 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 là. OK. Fait qu'on part dans l'histoire de notre famille, mais l'histoire se passe en pleine première vague de pandémie, ce qui fait en sorte que je dois mettre le décor où est-ce qu'on habite, dans un appartement, dans un parc extension, dans une coop d'habitation. Et moi qui viens du bas du fleuve, eh bien là, je m'ennuie de l'Est du Québec, mon père qui vient des Îles-de-la-Madeleine, maman de la Gaspésie, et le décor est installé. Ma fille me demande ensuite, pourquoi on peut pas aller voir grand-papa puis grand-maman à Rimouski? Mais j'explique que c'est à cause du virus et tout, puis là, elle me demande l'histoire de papy puis mamie. Va dans l'intergénération, nos racines, comment ça se passait à un accouchement en 1953 aux Îles-de-la-Madeleine versus maintenant de nos jours. Et étant donné que mes parents sont séparés, elle me demande comme troisième question, est-ce que toi puis papa puis maman vont être ensemble toute la vie? Et bien là, ça, c'est une bonne question. Et finalement, il y a des bonnes chances que oui. Là, puis là, je raconte l'histoire de papa puis maman, mais surtout la prise de conscience de la charge mentale d'une femme, d'une maman en particulier, suite à la pandémie, le télétravail, le fait qu'on était avec nos enfants à la maison, bébé et petite fille, eh bien là, ça a vraiment comme été des grosses révélations pour moi, des grosses prises de conscience. Parce que dans le fond, c'est ça. Là, moi, je suis un bon exécutant, mais je suis pas quelqu'un qui réfléchit. Puis ma blonde, c'est comme le cerveau là de la famille. Ce qui fait en sorte qu'elle a beaucoup plus. Le cerveau roule à 1000 à l'heure. Là. C'est comme si elle avait 75% des responsabilités. Puis moi, je vais aller porter les poubelles au chemin. Et pour terminer, la dernière question, mais non la moindre, pourquoi ma sœur crie tout le temps? Et c'est le nœud du spectacle, parce que dans le fond, on avait un bébé aux besoins intenses en pleine pandémie, où est-ce que, comme plusieurs personnes, on avait zéro service, on pouvait pas, tout était fermé, tout du télétravail, c'était impossible d'avoir comme un retour du CLSC, le médecin de famille non, aussi, tout le monde était débordé. Bref, on faisait des séances à 100$ par Zoom avec une psychoéducatrice, mais ça donnait pas grand-chose. À un moment donné, pour ventiler, on appelle parents, j'écoute, mais quand on n'a plus vraiment d'alternative, où est-ce que les grands-parents de Rimouski sont à 6 heures de route, puis les beaux-parents français sont à 6 heures d'avion, et quand on est dans un quartier avec pas beaucoup de ressources, pas beaucoup d'aide, ça a été vraiment comme un... Je vous dirais pas la fin de l'histoire, mais disons qu'il s'est passé quelque chose, là, un élément déclencheur pour que... Qui est incroyable et la fin est quand même très heureuse parce que comme vous pouvez l'entendre, je suis quelqu'un qui se tourne beaucoup plus vers la lumière que la noirceur, donc c'est un spectacle qui s'ouvre vraiment avec comme un élan de un pont entre les racines et les ailes, entre le père et le fils et le Saint-Esprit, je vous aime.
Alors, j'ai une question. Est-ce que, parce que je sais que tu écris, tu es un conteur formidable, est-ce que ta fille t'a vraiment posé ces questions-là ou tu les as un petit peu arrangées pour en faire le spectacle?
Je l'ai arrangé avec le gars des vues, et le gars des vues, c'est mon conseiller à l'écriture, Cédric Landry. Alors oui, dans un spectacle comme le mien, même si je suis seul en scène, j'ai des collaborateurs, et Cédric, en discutant, en ayant comme la trame narrative, et à un moment donné, ça a fait, ben, pourquoi ça serait pas ta fille qui poserait les questions? Mais ma fille, elle me pose énormément de questions. C'est juste que je lui ai donné des questions précises pour, que je voulais qu'elle me pose, et je l'ai enregistrée, c'est de toute beauté, parce qu'on entend sa voix, c'est vraiment touchant. On voit au début du spectacle que j'essaie vraiment de l'endormir avec une petite chanson, puis là, OK, elle veut une histoire, et là, tout part. Il y a vraiment comme on rentre dans ma bulle, mais qui s'élargit, ou est-ce que je l'ouvre au public. C'est comme si j'ouvrais un peu la porte de ma maison au public. Et qu'est-ce qui a été assez incroyable avec mes collaborateurs, c'est mon metteur en scène, Brian Morneau, où est-ce que, au lieu que ce soit un spectacle un peu comme un, disons, conte humour, où est-ce que c'est vraiment une game de ping-pong entre l'orateur et le public, ça a été beaucoup plus un genre de jeu circulaire, où est-ce que c'est vraiment plus, ça vient plus de l'intérieur. J'attends moins les réactions de l'extérieur, et Brian Morneau, mon metteur en scène, m'a très bien accompagné pour que le jeu soit tellement juste, où est-ce que, ben, tu me connais, Arlette, là,
oui.
L'écriture est très humoristique, mais je cherche pas à vous faire rire. Je cherche pas le gag pour qu'il y ait une réaction. C'est juste que c'est comme un mécanisme de défense dans les situations dramatiques. Et Dieu sait comment il s'en passe toute une à la fin du spectacle. Et ça, c'est la première fois dans un de mes spectacles où est-ce qu'à un moment donné, on bascule vraiment dans le drame et que là, je suis, je suis comme un peu impuissant face à la situation et que malgré les petites blagounettes, ben non, on ne peut plus rire vraiment. Mais heureusement qu'il y a la lumière à la fin. Mais comme dans la vie, dans le fond, parce que moi, je suis vraiment de cette philosophie-là où est-ce qu'on peut mettre le focus sur les problèmes et la noirceur, mais en même temps, pour une noirceur, on a peut-être quatre beaux soleils, on a quatre bonnes nouvelles, puis on est tout heureux, mais là, il y a un nuage plus sombre, puis là, il prend toute la place, ça nous empêche de dormir, puis là, on n'est même plus capable de reconnaître toute la beauté qui nous entoure. Fait que,
tu connais l'histoire
de dernière beauté, bien sûr.
Tu connais l'histoire du tableau blanc avec juste un point noir sur le côté. Et puis les gens, ils voient que le point noir. C'est-à-dire ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de bon, de beau, de formidable, de créatif autour, bon, on le voit pas parce qu'on voit juste le point noir qu'il faut absolument enlever. C'est quand même un truc de fou, hein, l'être humain est quand même.
C'est fou, puis on vient de passer à travers une période folle et on est un peu encore dedans. On a des répercussions, on dirait qu'on a des dommages collatéraux à travers tout ça. Et dans le fond, moi, je suis très humain et je trouve que c'est le premier spectacle où est-ce que je trouve que dans tous mes spectacles, même si je suis vraiment sensible, c'est là, j'ai l'impression d'être plus en mode hypersensibilité puis de l'assumer, puis de faire en sorte que c'est pas toujours, on n'a pas toujours le gros sourire aux lèvres.
Oui, bien sûr.
C'est pas facile, disons, il faut être capable de faire face puis de le voir, là, les nuages. C'est pour ça que je le montre très, très ouvertement, là, toute la situation qui s'est passée. Et mais pour le savoir, il faut venir le dimanche 15 mai au Théâtre de la Ville à Longueuil.
Je le comprends bien. Je le comprends bien et nous le redirons encore. Pour l'instant, on va faire une pause musicale et puis on reviendra avec toi pour continuer sur cette histoire. Parce que ce qui m'intrigue beaucoup aussi maintenant, c'est bien ce que tu as fait. Ça a l'air d'être super et tu as écrit dessus. Seulement, tu parles quand même de toute ta famille. Et quand on a dit la famille, on en parle dans un instant. Ça, j'aimerais bien savoir, parce que c'est pas toujours évident de s'entendre raconter certaines choses, surtout par son fils, son frère, son neveu ou peu importe. Voilà. Donc pour l'instant, on part en musique avec Marc Anderson Desrochers et Jean-Marc Pisapia qui nous chante Le Pissenlit.
Chaque année dans mon jardin, une mauvaise herbe vient m'écœurer. À prendre la place, c'est dégueulasse, comme un casseur à rien. Le temps de lion, le pissenlit. Mais moi je l'aime cette petite fleur, elle ne me donne pas mal au cœur. Je l'accueille souvent pour mon amour, il y en a 500 dans ma petite cour. Temps de lion, le pissenlit. C'est ta perception qui prend la décision.
juste un mal de tête. Les tulipes qui sont jalouses n'ont pas droit à la pelouse. Dans de lions, le pissenlit. Moi je les vois comme des soleils qui m'illuminent et m'émerveillent. Et pas comme mon sarron balade, c'est tellement bon dans une salade. Dans de lions, le pissenlit. Ta perception qui prend la décision. Ce qu'on voit à l'horizon est une projection. C'est ta perception qui prend.
Et nous voici de retour avec Serge Yvan Bourque. Alors Serge Yvan, qu'en a dit la famille proche et moins proche de cette histoire de vie ? Parce qu'après tout, tu la racontes en la voyant à travers ton regard et à travers ce qu'on t'a raconté. Mais qu'en est-il du vrai là-dedans ?
Eh bien, c'est une très bonne question, Arlette, parce que, tu sais, c'est quand je disais au début que j'installais le décor entre Montréal, Parc Extension, où est-ce que on a habité pendant 5 ans et qu'on a habité surtout pendant la pandémie, et mes racines avec les îles de la Madeleine, les grands espaces, la Gaspésie, le bas du fleuve, eh bien, j'ai eu une première résidence de création à Montréal, à Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles. Et là, c'était un peu, je pouvais me cacher derrière le fait que ben je connais, il y a pas ma famille proche là dans la salle. Là. Même si c'était web diffusé, là, j'avais quand même un peu une distance. Mais j'avais 2 résidences de création pour que le spectacle soit abouti. Et la deuxième était au Théâtre du Bic, justement à côté de Rimouski, là où est-ce que mes parents vivent. Et j'ai invité mes parents à être présents. Et c'était fort touchant parce que justement, c'est des parents qui ont un certain âge et qui ont aussi une santé fragile et que ben de part et d'autre, eux, ils étaient impuissants de pas pouvoir nous aider plus, moi et ma petite famille. Mais de l'autre côté, ben moi, je me sentais bien loin de mon père qui a eu un cancer fin février 2020. Heureusement, oui. Il va mieux maintenant, mais
tant mieux.
Il a maigri. Il a maigri de 50 livres devant un écran,
oui.
Parce que je pouvais pas plus le voir que par FaceTime, Skype de ce monde. Et c'est spécial aussi pour les enfants de voir qui le grand-papa qui était un beau bonhomme de neige en février, mais qui a fondu en mai. Là.
Oui, c'est ça.
Et ma mère qui a un début de dégénérescence. Donc, en tout cas, du moins, c'est sûr certain que c'était bien émouvant. Parce que moi, c'est un spectacle qui se veut très rassembleur, où est-ce que autant les personnes d'un certain âge peuvent se retrouver que les jeunes parents, que même, je te dirais qu'il est assez multigénérationnel, intergénérationnel, mais je trouve ça particulier. Alors, en fait, moi, je suis assez livre ouvert. La seule affaire, c'est que c'est ma plus jeune qui a été comme un peu... je serais curieux qu'elle puisse le voir dans le futur puis qu'on puisse en discuter. Mais en même temps, tu sais, cette histoire-là, ben c'était la meilleure façon que je puisse leur dire à quel point je les aime, mes enfants. Puis quand j'écris, c'est un peu à la fois pour toucher l'universel, pour que d'autres personnes puissent faire du bien, parce que dans le fond, moi, je me dis que c'est la meilleure façon que je puisse faire du bien au monde, contribuer à un monde meilleur, c'est par mes créations.
Tout à fait.
D'un autre côté, des fois, vu que je suis très dans les récidives, je suis un conteur qui se base beaucoup sur des tranches de vie soit rocambolesques, mais celle-là, elle a été vraiment, le dénouement de cette histoire-là est assez rocambolesque. Un peu comme on s'était déjà rencontré par rapport
oui.
à Réal, là, les itinérants
oui.
que j'avais ramenés à coucher, quand
c'est
des
spectacle.
Histoires comme ça, je trouve que ça vaut la peine de faire un spectacle avec des histoires qui sont comme, invraisemblables, mais c'est justement parce que, voyons, c'est pas possible, mais oui, c'est vrai, Mais après coup, bien sûr, vu que je la romance, là, je veux la magnifier ou en création, on fait toujours, on exagère ou on transforme l'histoire pour que ça devienne plus intéressant que juste une bonne anecdote, là, tu comprends? Oui. Mais c'est ça, moi je suis quand tu parles de la famille, je pense que ça va être surtout dans le futur de pouvoir m'asseoir avec mes filles et dire OK, au lieu de regarder un album photo, on va écouter cette histoire-là qui parle de nous autres.
Ben oui, c'est ça. Et puis, même pour l'histoire, quand elle demande et pour mes parents, que tu poses la question et pour mes parents, est-ce que l'amour va durer, que tu racontes comment vous êtes rencontrés, je suis sûre que ton histoire, enfin c'est la même évidemment, mais que vous avez chacun votre vision de votre rencontre et de comment ça s'est passé.
Oui. Ah oui, tout à fait. Ça, ma femme, ça fait depuis 2010 qu'on s'est rencontrés en France, où est-ce que je donnais des spectacles, mais qu'elle me connaît très bien. Puis elle sait très bien que c'est toujours ma vision des choses et elle pourrait raconter la sienne. D'ailleurs, quand on parle de Réal, l'itinérant que j'ai ramené à coucher, quand je suis rentré aux 6h du matin avec l'itinérant, elle était là avec la lumière allumée. Bonjour chérie! Alors elle aussi, elle aurait des choses à raconter là-dessus. Tout à fait.
Oui, parce qu'après, on a chacun notre vision de ce qui a pu se passer, ce qu'est l'histoire. Mais c'est passionnant de faire... Enfin, je trouve ça merveilleux de faire un spectacle comme ça, en dehors de nous l'offrir à nous, de l'avoir comme un genre de testament vivant pour tes enfants.
Oui, j'avais pas vu ça de même, un testament vivant, mais... Je pense que c'est ce que je pourrais. Tu sais, c'est drôle parce que là, je déménage, première maison et tout. Puis c'est comme un leg familial là, dans le fond. Oui. Là, quand je fais ce mouvement-là, je pense également à mes
un héritage, oui.
Mais oui, une forme d'héritage. Mais t'as raison de dans le fond que mes histoires, c'est un peu un leg aussi à ma descendance là, dans le fond. Puis je suis très curieux, moi, ça, plus que ça va aller, plus que je vais essayer de me renseigner sur ma généalogie, mes racines et tout. Je t'en compte une bonne, même la maison qu'on achète, c'est une maison de 1888. Et que moi, là, le côté passé, la tradition, j'aime bien ça. Même si je reste très actuel et très, tu sais, 2022, là. Mes histoires ne sont pas du passé, mais sauf que j'aime bien m'inspirer du passé.
Mais oui, puis si ça se trouve, puisqu'elle date d'aussi longtemps, cette maison, elle doit bien avoir une histoire. Donc, ça peut être aussi le sujet d'un prochain spectacle. Ma maison m'a parlé.
Mais oui, ma maison m'a parlé. Hey, tu me donnes des bonnes idées, Arnette, réinvite-moi dans le futur, un prochain show.
Et non, mais parce que c'est merveilleux. Quand tu remontes dans l'histoire d'une maison, il y a toujours des histoires qui se sont passées, sombres ou pas, ou peu importe.
C'est clair. Ils ont même laissé des vieilles photos, là, on ne sait même pas à qui ça appartient, mais c'est vraiment intéressant. Là. Oui. Moi, c'est comme un monde de découverte. Là. Pendant que les adultes, nous autres, on est dans un monde de découverte, les enfants jouent à cache-cache, puis ils ont plus de pièces pour se cacher.
Oui, c'est bien ça aussi. Alors, avant de terminer cette entrevue, donc, on l'a dit, tu es à Longueuil.
Oui, le dimanche 15 mai, puis c'est intéressant parce que c'est à 15h, c'est vraiment comme assez accessible pour les gens. Là, le dimanche 15 mai, 15h, en plus, ça se retient bien.
Alors, et c'est où à Longueuil?
Au Théâtre de la Ville, c'est le gros diffuseur de la ville de Longueuil. Oui. Exactement l'adresse, il faudrait...
Oui, mais c'est facile à trouver, j'ai habité Longueuil, je vois.
Théâtre de la ville
à Longueuil.
Ça va être une belle après-midi, ça c'est sûr et certain.
Et puis tu fais tourner ce spectacle?
Oui, il va y avoir quelques dates, mais là pour l'instant, c'est comme plus sporadique, une par saison, mais on espère que ça va pouvoir se développer parce que ça serait après ma maison de rêve, ça serait le spectacle de rêve pour pouvoir tourner. Je vais jouer cet été à Trois Pistoles et à Percé, donc je suis bien content d'aller jusqu'à Percé présenter ce spectacle-là. Puis à l'automne, je vais le jouer à Chambly, c'est le spectacle du Haut-Richelieu, là, le diffuseur de là-bas, qui va me faire jouer à Chambly. Puis on ne sait pas pour la suite des choses, mais je suis bien enthousiaste. On dirait que j'ai confiance en ce spectacle-là. Je suis tellement bien entouré. Brian Morneau, comme je vous ai parlé, mon metteur en scène avec qui je travaille, C'est merveilleux. On a eu un bel, des beaux éclairages, une belle lumière de Philippe Dick également. Là, donc, j'ai bien confiance que ce spectacle-là va pouvoir tourner.
Pour ceux qui n'auront pas eu la chance d'aller à Longueuil, ben, on espère que tu passeras par Montréal aussi, juste traverser le pont, mais dans l'autre sens cette fois. Alors, merci. Merci beaucoup, Serge Yvan. Je te laisse à tout ce que tu as à faire. Je te dis le mot de Cambronne et je te souhaite le meilleur pour toi et pour ta famille. Voilà.
Un grand merci, Arlette.
Merci.
Un grand merci.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, on part avec Chasse Balcon qui nous chante La Grippe.
On a eu une pandémie parce que tout le monde est grippé. Y'a personne de mes amis qui a pas eu la grippe cette année. Tous les magasins d'aubaine, ils font de l'argent comme de l'eau. Les mouchoirs, c'est à douzaine pour ceux qui ont le rhume de cerveau. Ça commence par un frisson, ensuite vous éternuez. Là, vous l'avez pour de bon, c'est le temps de vous confiner. Un petit gin puis du citron, avec ça vous allez suer. Évitez les courants d'air pour pas mourir les pattes en l'air. Tabidou, achou, lady, dop, tadidou, tabidou, achou, lady, dop, tadidou, tabidou, achou, lady, dop, tadidou, tabidou, tadidou, 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 ça vient qu'à rempirer, frottez-vous avec l'huile camphrée. Si vous avez mal au cœur, prenez une dose de painkiller. Si vous avez peur d'amour, prenez une dose d'huile de castor. Avec tous ces conseils-là, vous aurez pas le corona. Moi pis mon mari, on est allé faire du ski. Arrivé à Mont-Tremblant, il faisait froid, c'était effrayant. J'avais la face comme une forçure, pis le bout du nez, je l'ai dur. Oh, je vous dis que c'est pas rose quand on a un brandy nose. Tabididou, achou, laidin, dop, tadidou, tabididou, achou, laidin, dop, tadidou, tabididou, achou, laidin, dop, tadidou, tabididou, laidou, la, tu, tadidou, tabididou, tadidou, tadidou, tadidou. Faut se laver les mains longtemps, 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 faut se laver les mains longtemps si on veut pas attraper ça. L'hiver c'est un mauvais temps pour les rhumes d'estomac. Dans le mois de février, la plupart ils sont grippés, mais rendus au mois de juin, d'autres attrapent la fièvre des foins. Tabididou, achou, laidin, dop, tadidou, tabididou, achou, laidin, dop, tadidou, tabididou, achou, laidin, dop, tadidou, tabididou, laidin, dop, tadidou, tabididou, tadidou, tabididou, achou, laidin, dop, tadidou, tabididou, achou, laidin, dop, tadidou, tabididou, achou, laidin, dop, tadidou, tabididou, laidin, dop, tadidou, tabididou, tadidou,
Et voilà, donc nous voici à la fin de cette émission. Merci à Sylvain Gendreau. N'oubliez pas, au musée de Charlevoix, l'exposition Les années hippies, c'est jusqu'au 16 juillet. Merci à Serge Vambourg et à son spectacle qui va commencer à Longueuil, Le conte urbain d'un psychomique de région. Merci à Maurice Bolduc pour la technique et les chansons. Et puis comme d'habitude, bien un gros merci à vous toutes et vous tous qui nous suivez. Passez un excellent week-end et puis... on va se donner rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Profitez-en. J'espère que le week-end va être ensoleillé. En tout cas, ils nous promettent que maintenant, ça y est, le soleil arrive avec nous. Donc, merci à tous les deux. Vous avez de quoi faire. Hein. Vous pouvez aller au musée de Charlevoix. Vous pouvez aller voir Serge Vambourg ou qui tourne. Et n'hésitez pas à passer le pont pour aller assister à son spectacle à Longueuil. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir.